Chers amis des cellules, bonjour. L'enseignement d'aujourd'hui reprend l'étude du processus d'évangélisation avec sa cinquième étape, l'explication. Vous vous souvenez de l'image du filet qui avait été donnée? Nous étudions aujourd'hui la cinquième étape, l'explication. Alors que l'on avait commencé, avec le soutien de la prière, à servir le frère, à partager l'évangile avec lui, des questions ont pu apparaître, des questions comportant des doutes, des malentendus, des déceptions, des préjugés, des erreurs ou des confusions. Après une écoute patiente, il est nécessaire de donner une explication appropriée. Tandis que le partage avait pour objet Jésus vivant et présent dans notre vie, l'explication, elle, a pour objet les difficultés du frère dans sa relation avec Dieu et avec l'Église. Je vous propose cette semaine de regarder quelles sont les objections concernant Dieu et comment y répondre, et nous regarderons enfin l'origine du refus et de l'objection. La semaine suivante, nous nous pencherons plus particulièrement sur les critiques les plus communes contre l'Église et comment y répondre, et nous évoquerons aussi quelques règles pour agir avec bonté au cours de l'explication que nous donnons aux frères. Les objections les plus communes concernant Dieu peuvent être regroupées en trois grands thèmes. Premier thème, s'il est vrai que Dieu aime tous les hommes, pourquoi tant de souffrances, tant d'injustices, la faim, les guerres dans le monde? Deuxième thème, on entend tellement d'informations contradictoires sur Jésus, où est la vérité? Troisième thème, je crois en Dieu, mais je ne reconnais pas Jésus comme sauveur. Regardons le premier thème. Le problème de l'existence du mal a de fait tourmenté des générations entières. Le mal est scandaleux et le serait davantage si Dieu s'en tenait à le regarder et à se taire. Ce serait dramatique si Dieu n'avait pas de mots pour expliquer cet atroce mystère. Dans l'Ancien Testament, le livre de Job s'empare de la question de la souffrance, et en particulier de la souffrance innocente. Tandis que la sagesse traditionnelle disait « Mais si tu fais tout bien, tu es béni par Dieu, et si t'arrive des malheurs, c'est que tu as dû faire des choses de mal. » Il y a une espèce d'idée d'une rétribution immédiate pour chacun de nos actes. Et le livre de Job vient manifester que, quand bien même Job dit « j'ai pu commettre du mal », ce qui m'arrive est sans commune mesure avec ce dont je suis responsable. Et Job crie vers le Seigneur pour avoir une réponse sur le pourquoi de son sort. Qu'est-ce qui provoque ce sort, cet effondrement, cette accumulation de détresse sur sa personne? À la fin du livre de Job, Dieu va répondre. Dieu va se rendre présent au milieu de la tempête. Tempête à la fois extérieure, mais aussi, et peut-être surtout, tempête dans le cœur de Job. Trois éléments peuvent être conservés tout particulièrement de la réponse du Seigneur. Le premier élément, c'est que le Seigneur va dire que Job a bien parlé de lui, et il ne le dira pas des amis de Job. Or, les amis de Job essayaient de justifier le Seigneur, d'expliquer à Job qu'il avait dû commettre quelque chose, il avait dû commettre un mal particulier pour que tant de détresse s'abatte sur lui, en disant que Job a bien parlé de lui et non pas ses amis. Le Seigneur vient valider ce que pressentait Job. Il est victime d'une souffrance, d'un mal dont il n'est pas directement responsable. Donc il y a bien la validation de cette expérience dans le monde que nous pouvons faire d'un mal dont nous ne sommes pas directement responsables. Le deuxième élément de la réponse du Seigneur est un élément de sagesse, un élément qui renvoie à la transcendance et qui interroge Job. Connais-tu les tenants et les aboutissants de chaque chose, l'origine et la fin de chacun des éléments, des événements du monde? Tu ne les connais pas comme moi je les connais. Il suggère par là que l'incompréhension de Job vient de ce que Job n'a pas l'étendue de la sagesse de Dieu, n'a pas l'étendue de la vision de Dieu sur l'ensemble de l'histoire et sur la place que chaque chose, chaque événement y joue. Je conviens bien que ce deuxième élément est un peu frustrant. On aurait aimé une réponse que l'on comprenne pleinement, qui nous convainque pleinement. Cependant, ne nous trompons pas, la réponse de Dieu n'est pas une sorte de « ne cherche pas à savoir, laisse cela aux experts, ils comprennent mieux les choses que toi », comme un astrophysicien pourrait nous dire « mais vous ne comprenez rien à la relativité d'Einstein, et donc ne cherchez pas à regarder dans le détail ce qui se passe, contentez-vous de ce que je vous dis ». La parole du Seigneur invite à entrer plus profondément dans sa sagesse. C'est un élément particulier du Seigneur, il veut, il permet à l'homme d'entrer dans sa sagesse. Le troisième élément est peut-être le plus fondamental alors qu'il risque de passer tout à fait inaperçu, c'est le fait que le Seigneur se rende présent. Le fait que le Seigneur se rende présent, et je le disais, dans la tempête, tempête qui est aussi l'évocation de la tempête intérieure du cœur de Job bouleversé. La question du mal, l'expérience du mal, est d'autant plus pénible lorsque personne ne se penche dessus, lorsque les autres détournent les yeux, lorsque les autres font la sourde oreille. Et voilà que Dieu ne refuse pas d'être interpellé, que Dieu ne se cache pas, que Dieu se rend présent là même où se trouve la tempête. C'est la présence de Dieu bien plus que ses explications qui apaise le cœur de Job. C'est important à remarquer parce que nous faisons cette expérience que face à une personne dans la détresse, à une personne qui souffre, nous pouvons faire le don de notre présence qui est un don précieux au-delà de nos paroles ou au-delà de la capacité mécanique, matérielle que nous aurions à soulager la souffrance de la personne. Nous pouvons offrir notre présence et cette présence est importante. Pensons par exemple à Jean et Marie au pied de la croix de Jésus. Ils sont parfaitement impuissants et pourtant leur présence est importante. Dans le Nouveau Testament, avec l'incarnation du Fils de Dieu, la présence de Dieu prend une autre dimension. Dieu ne se prévaut pas de sa grandeur de Créateur, ni du respect qui lui est dû de la part de notre esprit créé. Jésus se rend présent à la totalité du mal. Jésus prend sur lui, en son corps et en sa personne, tout le mal existant. Jésus ne meurt pas résigné, mais combattant. Son cri sur la croix, lorsqu'il expire, exprime la rébellion de l'homme, de tout homme, contre l'injustice et la mort. Et voilà que la tragédie ne finit pas ainsi. La victoire de la mort ne sera qu'éphémère, parce que Jésus, après 3 jours, ressuscite, victorieux de la mort, de toute mort, et il prend la tête d'une humanité de ressuscité. Et c'est pourquoi Paul affirme dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ?» Ainsi, Dieu assume en lui, en Jésus, le mal le plus profond qui soit. Il l'assume en lui et de cette manière le brise et le détruit de l'intérieur. Quand Dieu se fait chair, quand Dieu prend notre humanité en Jésus, Dieu qui avait, on pourrait dire, imposé le silence à Job, hurle son combat contre le mal, justifiant ainsi toute forme de combat humain, de rébellion contre la racine même du mal. De la leçon de transcendance face à Job, nous sommes passés à une surprenante leçon de présence au mal, pour le vaincre de l'intérieur. La réponse de Dieu au problème du mal se dévoile progressivement au cours de l'histoire, et elle se dévoile à travers sa présence. Le Christ vient assumer l'histoire blessée de l'humanité. Il respecte le choix que la liberté des hommes a posé. Il en assume les conséquences, et par sa présence, il vient ouvrir des portes. Il vient permettre une fécondité, assurer une fécondité. La réponse que Dieu fait à la question du mal n'est pas une réponse en « parce que c'est pourquoi », mais d'abord une présence aimante, une présence qui ouvre une porte de vie, une présence qui ouvre une porte de communion et qui donne de porter du fruit et qui nous rejoint alors même que nous ne devions plus avoir d'avenir, que nous ne devions plus avoir d'espérance. C'est Jésus, sur le cul-de-sac de la croix, pourrait-on dire, qui annonce à celui qu'on appelle le bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Là où il ne devait plus y avoir d'espoir, d'avenir, Jésus, par sa présence, vient d'en ouvrir un. Deuxième objection concernant le Seigneur, on entend tellement d'informations contradictoires sur Jésus, où est la vérité ? D'une certaine manière, nous devons nous réjouir de toutes ces informations qui sont plus ou moins contradictoires sur Jésus, parce qu'elles sont le signe que l'homme est en quête de quelque chose et surtout de quelqu'un. Jésus lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 14. Et nous devons nous réjouir de ces interrogations, car elles nous obligent à donner des réponses toujours plus pleines de foi, d'expérience et de témoignage. La seule vérité se trouve dans la parole de Dieu. Nous nous souvenons de ce qu'on peut lire au chapitre 8 de l'évangile selon saint Marc, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils lui dirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres l'un des prophètes. » Et lui leur demandait « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Pierre lui répond « Tu es le Christ. » La diversité des témoignages rendus sur Jésus est en fait le chemin qui permettra de dire comme Pierre « Tu es le Christ » en tirant les conséquences de ce que Jésus enseigne, en tirant les conséquences de ce que Jésus fait. La diversité des évangiles, le fait que nous ayons quatre évangiles, est un élément de véracité sur le témoignage rendu à Jésus. De la même façon que quand vous demandez à quatre personnes de rendre un témoignage sur un événement qu'elles ont vu, elles n'auront pas une histoire complètement lisse. Et justement, si vous avez une histoire complètement lisse avec quatre témoins, c'est là où on s'interroge et on dit ils doivent être de connivence, ils se sont mis de mèche pour raconter une unique histoire. Il y a une diversité des points de vue parce que chacun aussi a regardé, compris avec ce qu'il est. Et de fait, c'est le chemin que nous devons parcourir parce que c'est le chemin que Jésus nous interroge. Qui dis-tu que je suis ? Jésus pose cette question à chacun et chacun aura à y répondre. Troisième objection classique, je crois en Dieu, mais je ne reconnais pas Jésus comme sauveur. On peut répondre avec les paroles mêmes de Benoît XVI et de Jean-Paul II. Je cite Benoît XVI dans Jésus de Nazareth. L'homme n'a finalement besoin que d'une seule chose qui les contient toutes, mais il lui faut faire le tour de ses souhaits et de ses désirs superficiels pour apprendre à discerner ce dont il a vraiment besoin et ce qu'il veut vraiment. Il a besoin de Dieu, et c'est maintenant que nous pouvons voir ce qu'il y a, en fin de compte, derrière toutes ces formules imagées. Jésus nous donne la vie parce qu'il nous donne Dieu. Il peut nous le donner parce qu'il est lui-même un avec Dieu, parce qu'il est le Fils, il est lui-même le don, il est la vie. Et Jean-Paul II de dire « L'homme est aimé de Dieu », telle est l'annonce si simple et si bouleversante que l'Église doit donner à l'homme. La parole et la vie de chaque chrétien peuvent et doivent faire retentir ce message. Dieu t'aime, le Christ est venu pour toi, le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ne pas oser au moins réfléchir au Christ comme sauveur et comme Dieu, c'est se priver à la fois de ce témoignage que Dieu donne qu'il nous aime et qu'il nous aime concrètement par le don de sa propre vie. Et ça n'existe nulle part. Nulle part Dieu n'a donné sa vie pour l'homme par amour, si ce n'est dans le Christ Jésus. Donc on se prive de ce témoignage si on ne veut pas considérer Jésus comme Dieu sauveur qui s'est fait chair. Et on se prive aussi du moyen de recevoir la vie divine, car de façon naturelle, on ne peut pas produire la vie divine. Il faut qu'on la reçoive, et pour qu'on la reçoive, il faut que Dieu nous la communique, et Dieu nous la communique en son Fils Jésus. Nous devons manifester ce que l'on perd, à dire je me contente de Dieu, de réfléchir sur Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus. Chers amis des cellules, vu la durée déjà de l'enseignement, je parlerai de l'origine du refus et de l'objection la semaine prochaine. Je vous souhaite de bons échanges.